16h52, Raphaël, Donald Trump a nommé un nouveau conseiller à la sécurité nationale.
Un quatrième en moins de 3 ans à la tête des États-Unis, ça en dit long, là.
Il y a quasiment autant de conseillers à la sécurité nationale à la Maison-Blanche que de coachs de l'Impact de ce temps-là.
Je pensais que tu allais dire qu'il y a quasiment autant de conseillers à la sécurité nationale qu'il y a eu de maîtresses à la Maison-Blanche depuis le début de la présidence.
Laissons ça en dehors de ta chronique.
Robert O'Brien, donc, qui est nommé. Ce qui est assez intéressant du parcours du bonhomme, c'est que c'est un fonctionnaire de formation. Plus spécifiquement, c'est un négociateur d'otages, selon les mots du président.
Négociateur d'otages.
D'otages. Le meilleur négociateur d'otages de l'histoire des États-Unis, selon Donald Trump, qui est donc nommé pour diriger la National Security Agency, la fameuse NSC dont on a tant parlé dans les dernières années, extrêmement puissant, extrêmement important, surtout dans le contexte actuel. C'est quoi le contexte actuel? Eh bien, le secrétaire d'État américain, donc l'équivalent, si on veut, du ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, est actuellement en Arabie saoudite. Parler aux Saoudiens suite à la fameuse attaque de drones contre les installations pétrochimiques saoudiennes qui ont eu lieu au courant de la fin de semaine. Et le secrétaire Pompeo a déclaré qu'il s'agissait, selon lui, et donc par le fait même, selon le gouvernement américain, là, d'un acte de guerre commis par l'Iran. Donc, on ne mâche pas nos mots. Et les plus hauts placés militaires aux États-Unis présentement sont en train d'évoquer la possibilité d'aider, et là, je cite, d'aider les Saoudiens à se défendre. Donc, on ne parle pas d'une intervention militaire américaine direct contre l'Iran, mais on parle d'une possible implication militaire indirecte des États-Unis pour aider leur allié de très longtemps, les Saoudiens.
T'sais, ce sont des rivaux régionaux, ce sont des rivaux religieux aussi, hein, parce que les Iraniens sont surtout chiites et les Saoudiens sont surtout sunnites, et on sait qu'il y a une grande rivalité à l'intérieur de l'islam entre ces deux courants-là. Donc, c'est tout ça n'est pas très rassurant. OK, tu voulais aussi me parler dans un registre peut-être un peu plus léger, mais très intéressant quand même, là, la Californie qui va peut-être légiférer pour permettre de rémunérer les athlètes universitaires. Et on a gardé Philippe Quentin pour ce segment-là.
On l'a gardé parce que c'est quelque chose, oui, de plus ludique dans un sens, mais quand même de très sérieux, parce que on parle d'une industrie de milliards de dollars. Là. Le sport universitaire américain ne connaît pas de pendant.
C'est une vache à lait pour des centaines d'universités.
Pour les universités en termes d'argent et en termes de prestige.
Et pour les réseaux de télé qui diffusent leurs matchs.
Et pour les médias. Et écoute, lorsqu'on parle des réseaux de télé, je suis allé chercher les statistiques avant d'entrer en onde. Le championnat du football universitaire américain cette année est allé chercher plus de 20 millions de téléspectateurs. Le championnat de basketball national américain, près de 20 millions. Pour donner une petite référence aux gens qui nous écoutent, là, ça accote les codes d'écoute des meilleures émissions. Le Sunday Night Football, Game of Thrones, les émissions régulières les plus écoutées aux États-Unis, les championnats universitaires vont chercher ça. Là.
Mais Philippe, dis-moi, comment ça se fait que ces athlètes-là qui génèrent des millions, sinon des milliards, travail pour gratis?
Ben, ça a toujours été comme ça. Il n'y a aucune autre raison. Puis on a toujours dit, ben, vous êtes des athlètes amateurs. Souviens-toi, dans l'Olympisme, ça a longtemps été comme ça, avant que finalement on réalise que ça n'avait pas de bon sens puis qu'on adapte les règlements. Mais moi, ce que je trouve le plus choquant, là, véritablement, c'est, il y a quelque chose là-dedans de tellement épouvantable, c'est que les entraîneurs de ces jeunes joueurs-là, un gars comme Nick Saban en Alabama, gagne près de 10 millions par année pour les diriger. Alors, les coachs font des fortunes. Il y en a au moins une quinzaine qui font 5 millions et plus par année. Puis les joueurs, eux, n'empoche absolument rien.
Et Philippe a utilisé un mot qui est clé, jeunes. Ce sont de jeunes athlètes. La pression qui est mise sur ces jeunes-là qui ont 18, 19, 22 ans est, en fait, est incalculable. Et c'est un tout petit pourcentage de ces jeunes-là qui vont se ramasser à gagner leur vie comme ça plus tard. Donc, ils vivent une pression inouïe. Ils font engranger de l'argent à leur école et ils n'ont rien en retour à l'heure actuelle.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, l'entraîneur de l'équipe qui lui est payé des millions, ben, parce que ce sont parfois des universités publiques, l'entraîneur est souvent, dans plusieurs États, le fonctionnaire de l'État le mieux payé.
Oui, tout à fait. Oui. Et de loin.
Souvent mieux payé que le gouverneur lui-même.
Ben oui, bien sûr, avec 10 millions par année.
Il n'y a pas un élu aux États-Unis qui va à côté de ce salaire-là, on s'entend. Là.
Donc, Raphaël, la Californie qui veut légiférer là-dessus, est-ce que la Californie, en tant qu'État, a une autorité là-dessus?
Bien, ça se pourrait que ça soit contesté. Donc, où est-ce qu'on en est présentement? On va se laisser là-dessus. L'Assemblée législative de la Californie a passé ce qu'on appelle le Fair Pay to Play Act, Act. Et donc, il manque juste la signature du gouverneur. Ça pourrait venir dans les prochains jours. Et il y a d'autres États qui considèrent déjà imiter la Californie. Donc, peut-être le début d'une tendance majeure.
Parfait. Merci, Raphaël. Merci, Philippe, d'être resté. Après la pause, Luc Ferrandez sur le salaire des élus municipaux.